consonance.
De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre.
Consonance.
Le grand saut. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Fanny Lerest, Rémi Clenet, Colline Ferreira d'Albino et l'auteur. Cinquième partie sur 6. Paul est un miraculé. Cette adolescence est défenestrée, mais s'en est miraculeusement sortie. Alerté par une enquête de police, un juge l'a placé dans une famille d'accueil très aisée. Paul y vit avec Mathilde, la dernière fille de la maison, avec laquelle il s'affronte régulièrement.
Le lundi suivant, l'AS vint chercher Paul pour le ramener au château. La nuit précédente, il dormit mal. Dès que le sommeil venait, il percevait des bruits qui le réveillaient sans cesse. Il n'arrivait pas à savoir si cela provenait de sa tête ou de l'appartement. Vers 2h du matin, il se leva pour boire. La chienne était là, assise au pied du lit, qu'il fixait dans le noir. Seuls ses yeux marrons brillaient dans l'obscurité. Il y avait des travaux dans la rue. La compagnie avait prévenu, l'eau serait coupée pendant quelques heures. Paul se servit un jus dont le goût de pomme acide le fit cracher dans l'évier. Par la baie vitrée du salon, on voyait dans le square un lampadaire dont l'ampoule clignotante annonçait Noël avec 10 mois d'avance. Ou 2 de retard, rectifia Paul en se glissant sur le balcon. Le froid le saisit et il ramena sur sa tête la capuche de son peignoir, le faisant ressembler à un héros maléfique sortant de l'ombre. À moins qu'il ne fût un lutin farceur guettant l'homme en rouge et ses étrennes de fer. Puis il s'accouda à la barre. Il n'avait voulu solliciter personne pour un nouveau téléphone. Un copain de son ancien lycée lui avait donné un vieux modèle, une antiquité qui ferait l'affaire pendant un temps. Paul se pencha un peu, puis il prit une photo. De nuit, l'endroit lui semblait si différent, presque beau, et surtout anonyme. La pendule de marque Jazz sur l'usine d'en face affichait 00:35, et sa grande aiguille hésitait à passer à la minute suivante, oscillant d'avant en arrière comme sur ces vieilles montres qui font toujours tic-tac, mais dont les aiguilles essoufflées s'agitent comme un psychotique sur sa chaise. Le portable indiquait 2h10. Paul en déduit qu'impressionné par ses exploits, la pendule avait laissé tomber sa course contre le temps. Elle seule témoignerait au monde de cette minute unique, identique au clairon du soldat qui avait sonné l'armistice le 11 novembre 1918 à 11h. L'instrument aujourd'hui dans un musée resterait mutique à jamais. Et sur la photo, accrochée juste à côté, le poilu annonciateur garderait pour toujours ses lèvres pincées.
Tu veux ressauter ?
C'est tentant, non ? J'aime bien les nuits froides. Elles habillent si bien la ville. Et puis, il y a peu de chances que des gamins viennent jouer au foot à cette heure-là.
Quand on voit ce que ça a donné le 11 novembre, le bilan n'est pas terrible.
J'ai mal choisi mon exemple.
Oh, beaucoup dorment encore, dans les boues froides, des plaines du Nord.
C'est un sommeil de juste.
Oh, tu te trompes de guerre. Mathilde te l'a dit, pourtant.
Alors quoi ? Dis-moi, on peut trouver un mur défédéré, que je m'aligne enfin !
Tu veux finir dans une fosse commune ? Je te croyais plus ambitieux. Choisis au moins un ossuaire, celui de Douaumont. Le prof en a parlé.
Tais-toi, petite sœur. Douaumont. C'est beau, c'est calme. Juste le mot. Douaumont. On dirait le début d'un poème.
Oh, encore l'autre dans son Valmoussu, avec ses points rouges à son côté. Oh non, fais un effort.
Je ne suis pas poète. Et tu préfères les sciences?
Allez, je t'écoute. Si c'est mauvais, mon con, j'en rirai.
À Douaumont. À doux au mont. C'est là que repose, calme et bon, le cœur doux qu'on arracha. Au mont Cernin, au mont Ventoux, pour le mener, cerné de frousse, côte 412, chemin des dames, des parapets au fond des trous.
Paul se retourna. Personne. Dans le lointain, une moto faisait rugir son moteur avant de s'élancer à l'assaut des asphaltes. Au revoir là-haut. Bonjour en bas. Elle s'en alla plus loin et le son terrible des canons à essence se perdit dans la nuit alors que Paul se levait dans un angle du balcon, espérant que le lieutenant, finalement, renoncerait à donner l'assaut. De cette nuit de terreur entrecoupée d'obus incendiaires et de gaz froid qu'il acheva dans son lit, mort de fatigue et gelé, il ne dit rien. Seule une goutte au nez persistait. Avait-il mis son écharpe dans sa valise, l'interrogea la S. Le retour au château fut brutal. Mathilde l'évitait sans cesse, refermant prestement la porte de sa chambre dès qu'elle entendait ses pas dans l'escalier. Une fois, il s'amusa à descendre bruyamment avant de remonter sur la pointe des pieds. Il la surprit, ouvrant lentement sa porte. Elle sursauta quand elle le vit. Même sa chambre avait pris des airs d'étrangeté, comme si par moments, tous ceux qui l'avaient précédé avaient profité de son absence pour fouiller dans ses affaires. Il avait laissé le silencieux, ce petit visage sculpté aux yeux exorbités qui ferme sa bouche de ses deux mains. Il était là, sur le côté droit du lit, comme la promesse tenue que jamais il ne l'abandonnerait, que toujours il serait là pour lui, le retrouvant même dans des endroits impossibles, le retenant par la manche pour l'empêcher de sauter du clocher où un artiste du Moyen-Âge l'avait immortalisé pour toujours. Il avait dû se passer quelque chose à Zermatt, le genre de ville où pourtant il ne se passe jamais rien. Geneviève gardait un air sombre, mais ce n'était pas après lui qu'elle en avait. Henri masquait sa gêne derrière un bavardage inutile. Mathilde jouait les fantômes. Il restait encore quelques jours de vacances et Paul profita de l'absence de la famille partie faire des courses pour questionner Fatima. C'était la deuxième fois seulement qu'il lui adressait la parole. Elle l'accueillit avec froideur dans la cuisine où mijotait un plat qui faisait teinter le couvercle du faitout. Elle ne savait rien. Elle tenterait de savoir mais maîtrisait mal le français. Au soir, il attendit Mathilde et lui remit un traité de paix qu'elle signa sans même le lire. À force d'user les conflits, ne restait plus que la guerre froide. Mais l'un et l'autre s'épuisaient à patrouiller dans des no man's land un peu vains. À présent qu'on démontait le mur, Paul voyait en elle presque une alliée, du moins quelqu'un avec qui discuter. Mathilde n'était pas du genre à concéder, mais par son éducation, elle maîtrisait la science de la négociation et des mains tendues. Et puis au fond, ce Paul, si calme dans ses réparties cinglantes, savait peut-être écouter.
Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd, disconnected fragments, now bright, now dim, hanging and bobbing and dipping and flaunting.
La semaine suivante, ils retournèrent au lycée, complices comme s'ils avaient fait les scouts, déjeunant parfois ensemble sous le regard méprisant de certains élèves qui ne voyaient vraiment pas ce qu'elle pouvait lui trouver, bossant leurs devoirs sur la même table ou dans la bibliothèque quand ils se faisaient réciter leurs leçons. Chacun relisait le travail de l'autre, piquant des idées, relevant des erreurs. Paul découvrit les qualités artistiques de Mathilde, qui, après pas mal d'hésitations, lui confia des dessins qu'elle avait faits à Zermatt. Elle souhaitait son avis. Lui n'en avait que pour l'économie, cachant au fond de son bureau les pages d'un texte qu'il avait commencé et qu'il ne souhaitait pas qu'elle lise. Il s'étonna qu'elle ait choisi cette filière, sciences économiques et sociales, qui ressemblait si peu à son milieu.
« Mais je n'ai pas choisi !» Tu ne le vois pas, mais je suis la honte de la famille.
Je n'aime pas les sciences et ne m'intéresse qu'à l'art. Si tu voyais mes sœurs. Sans parler de mon frère. Toujours des mentions, des félicitations. Si on m'a mise là, c'est parce que c'était la dernière solution, pour qu'on ne me jette pas du lycée.
Mathilde avait eu une scolarité chaotique, manquant de se faire renvoyer pour insuffisance de résultats, pour insolence répétée. Ses parents avaient fait pression pour qu'on la garde. Ils avaient beaucoup promis, avaient embauché des précepteurs qu'elle avait épuisés l'un après l'autre, la punissaient régulièrement, en vain. Ils la trouvaient plus assagie ces derniers temps, et attendait avec impatience qu'elle décroche son bac pour l'envoyer dans cette école, à Rome, où sa place était retenue, espérant qu'enfin elle finisse par bosser un peu.
Ils s'intéressent à toi, quand même.
Je ne les intéresse que lorsque l'image que je renvoie correspond à celle qu'ils veulent montrer aux autres. C'est ça que je voulais te dire l'autre jour en te parlant de la guerre.
Paul repensa alors à un article qu'il avait lu dans une revue piquée au CDI et qu'il avait oublié un jour dans un bus. La querelle des images. Il n'avait pas été jusqu'au bout tant c'était compliqué, mais un mot était resté dans son cerveau. Iconoclaste. Il avait enfin la possibilité de le placer dans une conversation.
Tu te crois iconoclaste dans ta famille ?
Mathilde sourit, lui fit remarquer qu'il était bien le seul à utiliser ce terme qu'elle avait lu à de multiples reprises dans des livres d'art. Il faudrait qu'elle lui montre sa collection. Oui. Les iconoclastes massacraient les représentations du divin en accusant ceux qui les avaient faites de n'être que des idolâtres. Soudain, Mathilde jubilait. Elle avait enfin quelqu'un avec qui partager sa passion. Mais Paul, sentant le piège d'un cours d'histoire de l'art se refermer sur lui, l'interrompit.
Toi qui aimes l'art, tu détruis des œuvres ?
Ne fais pas celui qui comprend pas.
Ou alors, tu te prends pour une représentation du divin ? Franchement, tu te la pètes un peu.
Oh, j'en connais d'autres qui pensent connaître la toute-puissance. Je suis iconoclaste au sens moderne. Je ne corresponds pas à ce qu'on attend de moi.
Tu n'es pas ou tu ne corresponds pas ?
Je vois pas trop la différence.
En sociologie, elle est fondamentale.
Oui, bah, j'emmerde la sociologie.
Tes parents refusent de t'adorer, c'est plutôt sain, non ?
C'est le contraire. Ici, tout est inversé. On adore ce qu'on brûle en pensant que les cendres correspondront enfin à ce qu'on espère.
Franchement, t'es l'enfant roi, t'as tout ce que tu veux, d'autres n'ont pas ta chance.
J'ai tout ce que je veux, mais pas ce que je désire.
Oh, pauvre petite fille riche. Tu fais ta crise d'ado, mais tout rentrera bientôt dans l'ordre. Et tu te conformeras à ce qu'on attend de toi, avec plaisir en plus. On ne renonce pas si facilement à la cuillère en argent qui porte le caviar à sa bouche.
Paul sentit immédiatement qu'il était allé trop loin et lui demanda de l'excuser pour ses propos. Il ne voulait pas la vexer, ni offenser ses parents qui l'avaient si bien accueilli, et il ajouta dans un souffle qu'il n'avait pas non plus l'intention de rallumer un conflit avec elle.
Allez, t'en es où des maths ? C'était l'exercice 7 de la page 30, je crois.
C'est vraiment étrange ce que tu viens de dire. Pour quelqu'un qui répète qu'il aime la sociologie, franchement, tu me déçois.
Mais il ne s'agit pas d'aimer. On n'aime pas une science, même une science humaine. Je constate, c'est tout. La science constate. Dans ton milieu, tout est écrit d'avance et j'ai bien peur que ton iconoclasme ne se transforme en un truc bien plus présentable.
Que ça se transforme en quoi ? Femme au foyer, à faire des gamins et à s'occuper des bonnes œuvres ?
C'est ce que tu redoutes ? C'est pas faux. Même si je te vois pas comme ça.
Alors quoi ?
Je dirais plutôt que ton iconoclasme va devenir une forme d'excentricité, une curiosité sans conséquence pour ton milieu. Comme dans le film, là, y a un type qui monte dans le train tous les samedis matins. Il monte dans le train et il dit qu'il va partir, mais à chaque fois, en fait, il descend avant que le train démarre. Bon, on revient aux maths ?
Toi non plus, hein. Tu n'y crois pas.
Pourquoi toi non plus, hein ? T'en as parlé à quelqu'un d'autre ?
À ma sœur aînée.
Elle est pas dupe. Peut-être même qu'elle a déjà ressenti ça. Et puis, elle a vu tout ce qu'il y avait de confortable autour d'elle et tout ce qu'elle risquait de perdre. Mais être excentrique dans ton milieu, c'est déjà pas si mal.
Il faut que je fasse quoi pour que tu me croies ?
Terminer les maths.
Réponds-moi.
Prendre un risque. Voilà ce qu'il faudrait que tu fasses.
Quoi? Que je saute par la fenêtre, comme toi?
Pourquoi pas? T'as qu'à venir chez moi, il y a une jolie vue sur la pendule d'en face.
D'accord. Bah, on y va?
Pff, tu racontes n'importe quoi. Tu vis dans un milieu où le risque n'existe pas, où... quand il y a le moindre problème, même minuscule, il est aplani d'avance. Même si tu sautes, il y aura 1000 coussins en bas.
Alors c'est foutu parce que tu l'as décrété, c'est ça?
Non, c'est foutu parce que tu vis dans un monde où on ne fait pas d'erreur. Tu le sais bien quand même.
À combien tu évalues mes chances?
Quoi? De devenir saltimbanque? De faire des peintures à la craie sur les trottoirs des rues de Rome en vivant dans un squat? Franchement, je te vois plus à la Villa Médicis.
Et si je refusais? Si c'est moi qui décidais de ma vie?
La Villa Médicis, c'est le nom d'une pizzeria dans mon quartier. Pas mauvaise d'ailleurs, je te conseille la 4 saisons.
Mais putain, regarde-moi. Tu ne m'en crois pas capable? Tout larguer, tout quitter, refuser tout ça, tout ce qui m'attend.
Bah, c'est bien toi qui veux aller à Rome faire des études. C'est déjà payé.
Et si je disais non?
J'y crois pas un seul instant. Bon, on les finit ces maths?
Encore tes statistiques. Tu ne crois que ce que tu vois. T'es pas iconoclaste.
Dans mon milieu, si. Mais dans mon quartier, et même dans mon lycée, être iconoclaste, c'est pas un genre. Ça se paye. Pas forcément avec de l'argent, d'ailleurs.
Tu crois que je fais genre?
Ne pas faire genre, c'est prendre le risque de perdre. Et toi, tu ne peux pas perdre.
Alors je prends le risque de gagner. Arrête de voir le monde que de ton point de vue.
Désolé, je ne vois le monde que depuis mon balcon. Et je vois pas bien ce que tu pourrais gagner. T'as déjà tout.
Parce que tu ne vois le monde que depuis ton balcon. Je serai la première à écrire un nouveau chapitre. Je serai un sujet d'étude pour les sociologues. Une nouveauté.
Alors il te faudra tout perdre avant?
Tu ignores ce dont je suis capable.
Et toi, tu ignores ce qu'il en coûte. Ni comment ça fait mal. Tu n'es pas préparé à ça.
Bah, tant mieux. Ce sera comme quand on arrache un pansement. D'un coup sec. Clac, c'est déjà fini.
Tu te trompes de combat. Tu deviendras une exclusivité. Tu seras la seule, une exception, bien loin de remplir un tableau Excel. Pourquoi tu ne t'engages pas sur les droits des femmes, ces trucs-là? C'est noble, c'est dans ta nature.
Mais on peut faire les deux à la fois. Regarde Maryse Bastier.
Les pionnières viennent toutes de familles bourgeoises. Elles se sont appuyées sur elles. Fais donc la même chose.
En fait, tu veux garder l'exclusivité parce que tu m'envies. C'est ça?
J'envie tes facilités. Si on m'avait donné juste le 10e, j'aurais pas craché dans la soupe.
T'as de drôles d'expressions, parfois.
Ça vient des livres.
Et si ça me plaît de... cracher dans la soupe, comme tu dis? Si même ça me plaît de balancer la soupière contre le mur?
Par moments, tu me fais peur.
Je t'impressionne, c'est tout. Maryse Bastier, la première femme pilote. J'avance sur le tarmac. J'ouvre la porte de l'avion. Je me penche pour saluer la foule. Et vouf, je flotte dans les airs.
Et comment tu vas t'y prendre? C'est même pas toi qui passe l'aspirateur.
Je partirai avec ce que je pourrais emporter.
Qu'est-ce qui s'est passé à Zermatt?
À une date que j'aurai seule décidée.
Qu'est-ce qui s'est passé à Zermatt?
Maintenant que tu sais, je te demande de te taire. De jouer les innocents. Tu sais faire? Tu sais, quand tu prends ta tête de communion, là.
Attends, on peut parler quand même.
Et puis, tout ça, je m'en fous. Je te laisse finir les maths.
Mais c'est du suicide!
La réponse de Paul fit l'effet d'une bombe dans la bibliothèque. Mais pas de celle qui éclate en 1000 particules blessant des gens à des mètres à la ronde, non. Une bombe iconoclaste, ciblant précisément un individu. Une bombe assourdissante, qui vrille tellement les tympans qu'elle impose un silence tel qu'on n'en a jamais entendu. Un silence muet. Paul sentit le froid soudain l'envahir jusqu'à glacer ses os. Il ne bougeait plus pendant que Mathilde, revenue à la table de travail, sifflotait en feuilletant le manuel de maths.
« Page combien, t'as dit ?»«
Le samedi suivant, l'AS vint chercher Paul pour l'emmener dans sa famille. Les choses commençaient à s'installer dans la routine. Un peu comme quelqu'un qui serait en déplacement la semaine et qu'on verrait revenir le week-end, Paul était entré chez lui en lançant un « Bonjour !» que personne ne remarqua. Sa mère était vissée sur une émission de jeu à la télé. Sa sœur jouait avec une copine dans sa chambre et son père, qu'il soit là ou pas, Paul ne voyait plus la différence. Et pourtant, lors du repas du soir, il lui annonça qu'il n'irait pas au lycée le lundi suivant car il l'avait inscrit à un concours. Paul d'abord ne comprit pas bien, pensa que le chien avait été inscrit à un concours et qu'il devrait s'en occuper ce jour-là. Après tout, c'était une femelle de race. Il apprit par sa sœur que son père avait dépensé 1500 euros pour ce kleps. Mais c'était bien de lui dont on parlait. Le père avait un ami à EDF. Une situation confortable, la possibilité de passer des concours à l'interne pour devenir cadre, plutôt que de perdre son temps sur les bancs d'une université. Il avait inscrit Paul au concours d'agent de maîtrise. Son père l'y conduirait lui-même. Il fallait être au centre d'examen avant 9h et c'était à l'autre bout de la ville. Paul trouva sur son bureau les annales des concours précédents que son père exigea qu'il bosse pendant le week-end. Il ne dit rien, ne se rebella même pas, se trouva soudain si minable devant cet homme alors qu'il avait été si simple de se jeter par la fenêtre. Il s'exécuta. C'est un concours niveau 3e. T'as pas intérêt à le rater, grogna son père. Des images de la cible sur laquelle il passait ses soirées à jouer aux fléchettes se télescopèrent dans sa tête. Il l'avait moquée, avait dit d'elle qu'elle était une roue de fortune, immobile, rouillée et vilaine, et voilà qu'elle passait à présent devant ses yeux, allant à l'envers, grinçante à vous tordre les tympans, prête à vous foncer dessus, comme si les aiguilles de la pendule de marque Jazz sur l'usine d'en face décidaient soudain de tourner dans le sens contraire. La vie de Paul semblait remonter le temps. Il avait bien questionné sa mère sur ce concours. Qu'en avait-elle dit ? Elle avait levé les yeux au ciel, approuvant par des mots confus la décision de son mari avant de se rasseoir et de lui demander si son pantalon n'était pas trop court. « Je suis pas très forte pour faire les ourlets », avait-elle ajouté. La sociologie s'en allait à tire-d'aile se poser sur des pylônes, rapportant dans son bec des compteurs à gaz, des voitures bleues et des images de bureaux en métal sous des néons clignotants. Passée la stupeur, la sidération, ce sentiment qui parfois l'immobilisait tout entier et qu'il pensait avoir hérité de sa mère qu'il avait érigé en mode de vie, il se mit à bosser les annales. Classa les choses à réviser en 4 groupes. Français, maths, physique, culture générale. Seuls quelques exercices de physique lui posèrent problème. Il demanda quand même à son père s'il aurait la possibilité de passer son bac. Ce serait bête d'avoir perdu 3 ans. Il répondit par un marmonnement qui semblait un oui d'ennui ou de dérangement alors qu'il brossait sa chienne qui jappait de plaisir. Le lundi suivant, il s'asseyait sur une chaise, devant une table qui portait son nom et son numéro de dossier. PJ 2712, dans ce hall immense qui servait de foire expo. Autour de lui, que des garçons, ou presque. On distribua les sujets, rien de bien compliqué. Paul s'en sortit facilement et rentra chez lui par le bus de 15h30. À son retour, l'AS était là avec sa valise et quelques affaires. Les parents de Paul avaient été prévenus en urgence. Leur présence était indispensable. Henri et Geneviève avaient contacté les services sociaux pendant le week-end. Ils ne souhaitaient plus garder Paul chez eux car celui-ci avait une mauvaise influence sur leur fille. Mathilde avait décidé de ne plus retourner au lycée et tenait des propos qui étaient clairement ceux de Paul. L'AS avait bien tenté d'en discuter avec eux, mais ils étaient catégoriques. Paul aurait 18 ans dans quelques jours. Le juge le plaça dans un foyer. Comme le centre dépendait du secteur de son lycée, il achèverait sa scolarité dans son ancienne classe.